Les crises que nous traversons appellent une transformation radicale. Le Club 44 prend le pouls de ces métamorphoses. Sa programmation vous invite à réfléchir à l'état du monde et à explorer d'autres perspectives et d'autres modèles. En lien avec les conférences, le Club vous propose une série d'entretiens avec de prestigieux invités. Zone 44, un podcast du Club 44. Épisode 6. Retrouver le goût de la liberté et de l'humanisme avec Roland Gory, psychanalyste. C'est en psychanalyste aguerri que Roland Gory observe les transformations du monde et notre aliénation à la technologie. Il se vit comme citoyen embarqué dans le tourbillon des crises sociales et politiques qu'il décortique dans ses nombreux ouvrages. Il refuse de vivre dans un monde désenchanté, il s'indigne de la dictature des chiffres, il s'interroge avec pertinence sur nos vies broyées par la performance algorithmique. Sa résistance, c'est une invitation au rêve, à partager avec d'autres, une invitation à retrouver notre pouvoir d'agir, une invitation à se vivre comme des êtres libres. Roland Gory converse avec la journaliste Manuela Salvi. Bonjour Roland Gory.
Bonjour Manuela.
Vous regardez le monde avec les yeux du psychanalyste et vous partagez ce regard avec votre public dans de nombreux ouvrages, La fabrique des imposteurs, La fabrique des servitudes, pour ne citer que ces deux-là, parce que vous en avez écrit une vingtaine. Ces deux-là sont publiés aux éditions des Liens qui libèrent. Quand on vient dans votre cabinet, Roland Gory, l'idée c'est bien de se libérer précisément de liens qui nous empêchent d'être libres.
Oui, bien sûr, c'est se libérer de liens qui nous empêchent d'être libres, c'est-à-dire de penser. La liberté, c'est déjà, presque étymologiquement, depuis l'Antiquité, un pouvoir d'agir, c'est un pouvoir de se déplacer.
Là, vous citez Aristote, Roland Gory.
Voilà, je cite Aristote, bien évidemment, la communauté des hommes libres, c'est la communauté de ceux qui peuvent se déplacer, mais qui peuvent se déplacer pas pour être seuls, qui peuvent se déplacer pour partager avec l'autre une reconnaissance symbolique et sociale partagée. Comme le dit Anna Arendt, la liberté requiert la présence d'autrui. Ce n'est pas la liberté des modernes. La liberté des modernes, c'est une espèce de liberté de copropriétaire où chacun essaie de tirer le maximum de profit de l'autre et il ne le considère pas comme son égal, comme son semblable. Et je dirais que la pratique analytique, c'est de permettre à l'autre de se défaire des liens qui l'aliènent pour lui permettre de trouver les liens qui peuvent lui apporter des denrées mentales, symboliques et sociales à même de le constituer comme sujet libre.
Donc c'est le besoin aussi d'altérité que souligne Anna Arendt. De quoi faut-il être curieux, Roland Gory, pour exercer, c'est un drôle de métier quand même, un psychanalyste, le drôle de métier de psychanalyste?
C'est un métier impossible, disait Freud. Bon, mais il ajoutait quand même...
Vous l'exercez depuis combien de temps?
Oh là là, plusieurs décennies. Vous savez, je ne donne jamais de chiffres. Comme vous savez, j'ai une certaine réticence par rapport aux chiffres.
Revenons à la curiosité. De quoi faut-il être curieux pour exercer le métier de psychanalyste?
Je pense que c'est un métier curieux, mais je ne sais pas s'il faut être curieux. Vous voyez, là, je pense, Manuela, que vous nous donnez une vision très idéaliste du psychanalyste. Je pense que, si vous voulez, on ne peut même pas se prévaloir d'un titre ou du métier de psychanalyste. Je pense qu'on exerce à un moment donné une fonction analytique qui veut bien nous toucher, qui veut bien nous affecter. C'est un peu comme la grâce, d'une certaine manière. Et donc, on ne la possède pas. On n'est pas propriétaire de cette fonction. Si on essaie de la maîtriser et de l'approprier, de l'accaparer, on perd à ce moment-là, justement, cette disponibilité psychique, cette disposition psychique qui nous permet d'entendre dans les mots ce qu'ils disent de nous et que nous ignorons d'eux. Vous avez reconnu le poète René Char, bien sûr.
Mais parfois, ceux qui ne disent pas les mots et ce métier, vous l'exercez avec passion depuis de nombreuses années. Vous n'allez pas préciser parce qu'effectivement, vous êtes un peu fâché avec les chiffres et avec notre société de chiffres. Mais il n'y a pas de psychanalyste sans divan. Alors, le divan fait partie un peu de l'imaginaire psychanalytique. À quoi il ressemble, vôtre?
Ah, Oh bah écoutez, c'est un divan qui est posé d'une façon parlée, qui est installé, disons, près d'une immense bibliothèque. Moi, j'ai un fauteuil derrière qui a un fauteuil qui me permet un peu de me relaxer. Et puis, si vous voulez connaître vraiment l'intérieur de mon cabinet, bah, allez voir le film que Xavier Gaillard m'a consacré, qui s'appelle Roland Gori, Une époque sans esprit. Et vous verrez mon appartement et vous verrez mon cabinet.
Plein de livres, votre appartement.
Plein de livres, ça me coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Vous n'imaginez pas l'argent que j'ai pu investir dans les livres et dans les bibliothèques, quoi. On ne sait plus d'ailleurs où les mettre. Et d'ailleurs, ma femme refuse que j'achète des livres. J'achète quand même des livres.
Mais le lieu où votre divan est installé, est-ce un lieu aux choses rares dans notre époque, surinformée et suragitée, est-ce un lieu où le temps est suspendu? Ou est-ce ainsi que vous le percevez, que le vivent vos patients, ce temps suspendu de l'heure qu'ils passent en analyse? Enfin, des nombreuses heures, parce qu'ils reviennent régulièrement, mais...
Absolument. Alors ça, c'est un point essentiel que vous soulevez. C'est-à-dire que, vous savez aussi, allez, on va encore citer Jean-François Lyotard, qui est un philosophe de la modernité, de la postmodernité, qui dit: dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut, mais incorrigible, d'en faire perdre. C'est-à-dire que toute notre organisation sociale, et notamment avec la participation technique et technologique, est mise en place pour que nous ne perdions pas de temps, c'est-à-dire pour nous éviter de penser. Et ce qui me frappe dans, allez, je vais vous dire, dans les 30 ou 40 ans de pratique analytique qui est la mienne.
Vous donnez un chiffre là,
Oui,
Roland Gori.
non, mais vous savez que je suis très capricieux, Manuela. Eh bien, dans les 30-40 ans de pratique, ce qui m'a frappé, c'est qu'avant, les gens venaient parce qu'ils avaient des troubles somatiques, hein, ce qu'on appelle les conversions somatiques, des troubles corporels sans cause biologique organique avérée, ou bien parce qu'ils avaient des troubles obsessionnels, ou bien parce qu'ils étaient malheureux, impuissants, enfin tout ce que vous voulez, dépressifs et autres. Et aujourd'hui, parfois, il arrive que les gens viennent pour trouver du temps où ils puissent être avec eux-mêmes, c'est-à-dire pour prendre conscience de l'existence d'une réalité psychique qui se trouve aujourd'hui déniée, excommuniée par nos pratiques sociales.
Donc, s'y allonger sur ce divan-là, c'est aussi oublier les bruits du monde pour écouter, être attentif. Si je vous résume, Roland Gori a un autre souffle de vie.
Absolument, c'est pour avoir le temps de se sentir penser, de se sentir vivant. C'est un point qui est extrêmement important. Parce que je pense qu'il faut pouvoir se laisser aller quelque part au rêve, par exemple.
C'est important le rêve pour vous, hein?
Pour moi, le rêve est important. Il n'y a pas de pensée sans rêve. Le rêve est le lieu de sépulture des événements du jour qui permettent et organisent la manière de vivre dans les jours qui suivent.
Ça veut dire que rêver, ça nous permet de mieux penser.
Rêver, ça nous permet de mieux penser. La question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est que dans nos sociétés où nous nous levons tôt, est-ce que nous avons encore le temps de rêver et surtout de raconter nos rêves? Parce qu'il ne faut pas oublier que ça, Lacan l'avait tout à fait, de manière tout à fait pertinente, souligné. Il ne faut pas oublier que lorsque nous entrons en analyse, comme par hasard, il y a une augmentation des rêves. Il y a une augmentation des rêves parce que nous avons quelqu'un à qui leur raconter. Et donc, quand on raconte, si vous voulez, ses rêves à son psychanalyste, tôt ou tard, on va l'inclure dans le rêve, et c'est cela qu'on appelle le transfert, tout ça. C'est cela, tout simplement. C'est-à-dire que quelqu'un que l'on prend à témoin devient très vite partie prenante de l'étoffe des rêves. Vous savez, il y a cette phrase formidable de Shakespeare qui fait dire à Prospero dans La Tempête: nous sommes faits à l'étoffe de nos rêves.
Magnifique phrase.
C'est une fois, mais vous savez très bien que les romanciers, les poètes, les écrivains savent énormément de choses et d'une manière générale, ils sont beaucoup plus intéressants que les psychanalystes.
Et là, vous faites preuve de modestie, Roland Gori. Donc, vous écoutez vos patients, on vous sent passionné, hein, Roland Gori, mais vous êtes aussi un psychanalyste engagé. Engagé dans les débats de notre époque, hein, la fabrique des servitudes, la fabrique des imposteurs, vos livres en sont le témoignage. Engagé, c'est une nécessité pour vous aujourd'hui.
Alors, je dirais, comme un de mes auteurs préférés, qui est Albert Camus, je ne sais pas si il est engagé. Je ne sais pas s'il est engagé.
Révolté, suis... alors, pour citer Camus.
Pour citer Camus, je dirais embarqué. Souvenez-vous.
Ah, c'est pas la même chose.
Souvenez-vous de son discours en Suède, n'est-ce pas? Il dit, je ne sais pas, on lui pose la question.
Au moment du prix Nobel.
Oui, je ne sais pas si je suis... non, je suis embarqué. C'est-à-dire, embarqué, ça veut dire que je n'ai pas le choix. Et je suis embarqué en haute mer. Et à ce moment-là, on ne réfléchit pas. On est... Moi, j'ai été universitaire pendant plusieurs décennies, où j'ai eu des responsabilités assez importantes à l'université. Et à un moment donné, je me suis aperçu que les pratiques universitaires d'enseignement et de recherche se transformaient considérablement et faisaient l'objet de violences technocratiques et gestionnaires insupportables. Ben, je n'ai pas le choix. Je ne dis pas que je vais m'engager. Je suis embarqué à ce moment-là dans ce changement de paradigme, dans ce changement de culture, et je suis bien obligé de changer ma position.
Donc il y a une nécessité d'agir, c'est ça que vous nous dites.
Voilà. Il y a une nécessité à la fois intérieure, c'est la question du désir, et il y a aussi une nécessité sociale et politique. Je ne peux pas accepter d'être dans une culture, finalement, où le sujet humain est réduit à un foyer de fonction instrumentale, réduit à un profil bioalgorithmique, réduit à un paquet de données numériques ou d'instruments.
C'est effrayant que vous nous décriviez ainsi, oui. Roland Gori.
Mais je suis désolé, c'est quand même ça, vous le savez bien. D'ailleurs, l'exemple que je donne toujours, c'est que ces normes acquises sur les lieux professionnels, c'est-à-dire ces scores, n'est-ce pas, que nous
devons... Ces évaluations que vous détestez.
Oui, oui. Enfin, alors, là encore, mais là, il faut préciser, je ne déteste pas l'évaluation. J'ai passé un certain nombre de temps dans ma vie à corriger des copies, à siéger dans des jurys de thèse, à siéger dans des jurys d'habilitation, à siéger dans des commissions qui recrutaient les professeurs d'université et qui assuraient leur promotion. Donc, j'ai en quelque sorte établi des critères de valeur de ce que nous faisons en tant qu'enseignants, en tant que chercheurs. Et puis, un beau jour, je me suis trouvé face à des gens pour qui la seule chose qui comptait, c'était des indicateurs quantitatifs de performance. Donc à partir de ce moment-là, ce qui comptait, ça n'était pas le contenu d'un article ou le contenu d'un livre. D'ailleurs, les livres ne comptaient plus. Ce qui comptait, c'était les articles scientifiques, non pas en fonction de la valeur de leur contenu, mais en fonction de la logique d'impact des supports où ils étaient publiés. Donc nous tombons, si vous voulez, dans un formalisme absolument stupide qui conduit aux deux grandes maladies de cette forme d'évaluation, c'est-à-dire le conformisme ou l'imposture. Si vous le permettez, j'aimerais lire à nos auditeurs une citation de Ken Loach.
On va ajouter des auditrices.
Et auditrices, bien évidemment. Je vois que vous êtes très engagé, Emmanuel. Mais je crois d'ailleurs avoir...
Non, embarqué.
Oui, c'est vrai, vous êtes embarqué. Alors, Ken Loach, dans Défier le récit des puissances. Et Ken Loach, c'est ce cinéaste de génie.
Très engagé, lui. Hein.
Très engagé. Alors, il écrit, « Avec le temps, ça a été de plus en plus contrôlé. Plus les années ont passé, plus le format de ce qui marchait en termes d'audience s'est développé, rigidifié. Tout s'est bureaucratisé, hiérarchisé. Et comme dans toute industrie, il parle du cinéma, hein, et comme dans toute industrie, la pression sur la production s'est fortement intensifiée. La tendance est à la réduction des équipes et à la multiplication des managers qui, pour justifier leur position, se doivent d'intervenir dans tous les domaines, du scénario au casting. Dans les années 1960, ils ne vous disaient pas quel acteurs vous deviez engager. Eh bien, si vous voulez, ce que Ken Loach nous dit là du cinéma, dont il évoque le caractère industriel, les industries culturelles, n'est-ce pas, eh bien, est vrai pour tout. C'est vrai aujourd'hui pour l'hôpital, c'est vrai pour l'université, c'est vrai pour l'école, pour le lycée, c'est vrai pour l'information, c'est vrai pour la culture, c'est vrai pour la justice, c'est vrai pour le travail social, c'est vrai pour tous nos métiers qui passent à la moulinette, justement, qui sont broyés par cette violence technocratique, justement, des indicateurs quantitatifs de performance. Or, nous avons là une colonisation de nos esprits et de nos mœurs, qui fait que nous allons aujourd'hui exercer nos métiers, non pas en fonction des finalités qui sont les leurs, soigner, éduquer, informer, cultiver, etc., mais nous allons exercer nos métiers sous la violence colonisatrice de ces indicateurs pour répondre aux exigences de score établies.
Quand on vous lit, quand on vous écoute, quand on vous regarde, hein, je pense notamment au film « Une époque sans esprit » de Xavier Dayan, on sent aussi que vous portez l'idée de résistance. Mais tout ce que vous venez de dire sur la colonisation des esprits, sur cette évaluation, sur ces chiffres qui dominent notre société, c'est ça qui vous fait dire qu'on vit une époque sans esprit ?
Alors, cette expression d'un monde sans esprit, elle provient de Marx, mais du jeune Marx, pas le Marx du Capital, le Marx hegélien de gauche, c'est-à-dire le Marx des manuscrits, et lorsqu'il nous dit que la religion est l'opium du peuple. Alors ça, tout le monde sait que la religion est l'opium du peuple, sauf que c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit avant. Il dit que la religion est un cœur d'un monde sans cœur, l'esprit d'un monde sans esprit. C'est-à-dire qu'il insiste à ce moment-là sur le caractère de révolte de la religion. C'est très intéressant parce que souvent, on pense que Marx ou Rosa Luxembourg ou Camus même, ou Jaurès ou d'autres peuvent être critiques par rapport à la religion, alors que ce sur quoi ils insistent, c'est en quelque sorte sur le premier mouvement qui est de refuser le monde désenchanté, le monde désacralisé, le monde soumis aux affaires et à la marchandisation tel qu'il est. Et donc c'est d'abord un mouvement de révolte. Et après il y a un deuxième mouvement où là effectivement tous ces auteurs, tous ces philosophes sont critiques. Cet autre mouvement, c'est de considérer que la religion, prévoyant un autre monde dans l'au-delà, elle nous aliène. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle est un geste de révolte contre l'aliénation capitalistique du monde. Et puis, dans un deuxième temps, au lieu de pousser cette révolte jusqu'au bout, c'est-à-dire de replacer l'humain au centre de la société, au centre de la culture, au centre de la politique, eh bien, le deuxième mouvement est de lui dire, en gros, soumets-toi à la théologie, soumets-toi aux religions, soumets-toi aux rituels, etc., et tu seras heureux dans un autre monde. Or, comme disait le poète Paul Huard, s'il y a un autre monde, il est dans celui-ci.
Et c'est ici qu'il faut l'imaginer, notre monde, en tout cas imaginer un monde meilleur. Vous parlez d'aliénation, Roland Gori, et vous l'associez là à la religion, mais on peut aussi l'associer, et vous le faites, aux nouvelles technologies, à cette nouvelle fabrique des servitudes. Et là, vous utilisez un terme aussi emprunté à Marx, nous sommes devenus des prolétaires. Oui. Des prolétaires de quoi ?
Alors, c'est très intéressant, Manuela, ce que vous dites, parce qu'effectivement, ma thèse, c'est que nous vivons une prolétarisation généralisée de nos existences sociales.
À cause de la technologie ?
Alors non, c'est pas la technologie en elle-même qui est aliénante ou réifiante ou chosifiante. C'est pas la technologie, j'insiste beaucoup dans la fabrique de vos servitudes là-dessus, la technologie, dans l'histoire de l'humanité, elle est un vecteur d'émancipation, une promesse de liberté. Elle nous libère des contraintes de la nature qui conduisent aux famines, aux disettes, aux épidémies, etc.
D'ailleurs, il n'y a pas d'humanité sans technique.
Il n'y a pas d'humanité sans technique. La technique fait partie de la niche écologique de l'humain.
Alors, qu'est-ce qui a dérapé ?
Alors, ce qui a dérapé, c'est très simple, c'est que justement, ce vecteur d'émancipation, cette promesse de liberté, elle se transforme sous la pression des logiques sociales et des rapports de domination, elle se transforme en dispositif de contrainte, de surveillance et de normalisation. Et avec la modernité, notamment du XIXe siècle, il y a un accroissement, il y a une extension sociale des normes. Et les normes, qu'est-ce que c'est ? Comme le dit le philosophe Canguilhem, la norme, c'est la somme des exigences qu'on impose à des existences.
Et aujourd'hui, elles se multiplient ?
Et elles se multiplient, et la technique, les nouvelles technologies permettent justement d'accroître ces moyens de nous surveiller, ces moyens de nous contrôler, ces moyens de nous normaliser. Elles alignent les individus sur ce que Gilles Deleuze appelle des autoroutes de servitude. Alors il dit bien sûr les autoroutes, c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour surveiller et contrôler, c'est fait pour tout à fait autre chose, mais il se trouve que c'est le lieu, je dirais, le plus apte à permettre aux gens de tourner à l'infini en étant en permanence surveillés, contrôlés, normalisés, sans même qu'ils s'en aperçoivent. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas si en Suisse c'est pareil, mais en France nous avons Waze. Waze est une application merveilleuse pour nous éviter les bouchons et pour guider, n'est-ce pas, l'automobiliste en lui permettant d'emprunter les chemins les moins embouteillés pour qu'il arrive le plus tôt possible à l'endroit de sa destination. imagination. Sauf que Waze vous dépossède d'une certaine manière, n'est-ce pas, de vous perdre, vous dépossède d'une certaine manière, n'est-ce pas, des chemins de traverse, vous dépossède de l'inconnu, vous dépossède d'un certain nombre de... Au nom de l'efficacité, au nom de la vitesse, vous dépossède, au nom du progrès, vous dépossède d'une certaine liberté de déplacement et de vous guider vous-même. Alors, qu'est-ce que c'est le prolétaire ? Bien, le prolétaire, si vous me permettez, n'est-ce pas, je vais citer Lacan et je vais vous en dire un peu plus. Il faut encore que je retrouve, bien sûr, la citation de Lacan, mais ne vous inquiétez pas, je vais la retrouver rapidement.
Il y a plein de phrases qui sont surlignées et de post-it dans votre livre.
Mais oui, mais vous savez, le prolétaire n'est pas seulement exploité, il est celui qui a été dépouillé de sa fonction de savoir. Ça, c'est Lacan.
Et donc de sa fonction d'agir et de son pouvoir
absolument,
d'agir.
Absolument, des pouvoirs de penser. Alors, on va y revenir, mais qu'est-ce que c'est le prolétaire ? Il faut lire le jeune Marx. Moi, c'est le jeune Marx qui m'intéresse. Ce n'est pas le Marx du Capital, c'est le Marx, justement, de l'aliénation, comme vous avez dit. Vous avez tout à fait compris, entendu, analysé ce que j'ai pu dire. Le prolétaire, ce n'est pas simplement l'état de misère matérielle d'une population, d'un ouvrier. Le prolétaire, c'est celui qui a été dépossédé de son savoir-faire, de son savoir-être, de son savoir, et auquel le mode d'emploi de la machine prescrit les comportements qu'il doit avoir.
On n'en est pas conscient de ça, souvent, le Roland Gori, parce que d'avoir un téléphone portable dans sa poche, un ordinateur, d'être connecté en permanence, on a l'impression, ou même la certitude, que ça nous aide dans notre quotidien, que ça nous aide à vivre, tout simplement.
Alors là, vous allez me conduire, Manuela, je suis désolé, une autre citation, elle est de Brecht.
Allez-y.
Allez.
Elle est magnifique, celle de Brecht.
Rien n'est pire que l'asservissement occulte, car si l'asservissement est manifeste, s'il est reconnu comme tel, il existe au moins une idée, un autre état, celui de la liberté. Mais si l'esclavage effectif est appelé par tous liberté, la liberté n'est même plus pensable, non seulement l'asservissement devient un état naturel, mais la liberté devient un état non naturel.
Bertolt Brecht, qui a écrit ça bien avant l'arrivée et l'émergence et le déferlement des nouvelles technologies. Donc c'est un asservissement que nous sommes en train de vivre qui ne dit pas son nom. Vous parlez, Roland Gori, de liberté d'obéir, c'est paradoxal.
Alors, liberté d'obéir, c'est Johann Chapoutot, l'historien, qui a employé cette expression, mais je la trouve très juste parce qu'elle est un oxymore, elle est finalement une contradiction dans les termes, pour aller très vite. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce qui est parfois difficile avec, je dirais, les adolescents et les jeunes qui n'ont pas connu un autre état que celui dans lequel nous sommes et qui considèrent que nous sommes des has-been, n'est-ce pas, que nous sommes des papy-boomers.
Qui ne comprennent rien à la technologie.
Qui ne comprennent rien à la technologie. Et pour eux, c'est drôle, c'est amusant, etc. Ils ne comprennent pas. Bon, alors ça, c'est intéressant parce que vous avez, dans le discours de la servitude volontaire de la Boétie au XVIe siècle, la même chose. Il dit le problème de cette servitude volontaire est peut-être moins celui des anciennes générations qui ont connu un autre état, ceux de liberté, pour la vie, c'est relatif, bien sûr, mais c'est celui de ceux qui... ayant trouvé cet état de servitude à la naissance, n'en ont pas connu un autre et prennent pour un état naturel ce qui a été un fait de l'histoire. Entendez bien que je ne suis pas pour la destruction de la technique. La technique, c'est encore une fois un facteur d'émancipation si nous nous servons de la technique et non pas si nous nous laissons asservir par elle.
Donc si on remet l'humain au centre.
On reprend le pouvoir.
Le pouvoir d'agir.
Le pouvoir d'agir.
C'est les conditions de la liberté.
C'est les conditions. La liberté, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un état d'esclavage, n'est-ce pas, qui a toutes les apparences de la liberté et qui a en quelque sorte une liberté servile. C'est l'oxymore que je propose. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tenus, bien évidemment, par des fers, nous ne sommes pas emprisonnés, nous ne sommes pas mutilés, mais nous sommes tenus le fil à la patte par le numérique. Et il ne s'agit pas de casser le numérique, il s'agit de se le réapproprier et de l'utiliser pour la liberté et non pas pour se soumettre.
Donc réflexion aussi philosophique que la vôtre, Roland Gori, dès qu'on parle de liberté, on est dans la philosophie. Mais ce qu'on sent aussi chez vous, c'est une critique de l'idée même de raison, de rationalité comme boussole de nos actions, que vous le questionnez, vous l'interrogez. Et la raison, c'est bien ce qui a permis le développement des sciences, c'est bien ce qui a permis le développement de nos technologies. La raison, c'est un piège aujourd'hui ?
La raison fut le vecteur de la liberté, elle est aujourd'hui une entrave. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pensons que la raison, c'est la rationalité technique, ou que la raison, c'est la rationalité que j'appelle pratico-formelle. Pratico-formelle, ça veut dire la rationalité pratique, c'est la pensée des affaires. La rationalité formelle, c'est la pensée normative, c'est-à-dire du droit. Est-ce que c'est conforme au réel, ou est-ce que ça n'est pas conforme, etc. Il y a d'autres formes de rationalité. Le mythe est une forme de rationalité. L'éthique, la religion, est une forme de rationalité que, justement, Max Weber appelle substantiel. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui parler de raison comme on a pu le faire au temps des Lumières. Vous le savez, Kant a écrit un texte magnifique en 1784 sur les Lumières, qu'est-ce que les Lumières, où il dit que les Lumières, ça, c'est finalement une invitation à sortir de l'état de minorité dans lequel on se complaît soi-même, à ne se servir que de sa raison critique et de sa loi morale. Mais nous sommes en 1784. C'est-à-dire qu'un siècle plus tard, n'est-ce pas, ce message d'espoir, ce message de liberté, il vient se fracasser sur le mur des exigences de la deuxième révolution industrielle qui impose des normes techniques, des normes industrielles, et c'est le moment, en quelque sorte, où l'ouvrier perd la dimension artisanale de son acte et devient le prolongement de la machine. Et vous avez cette philosophe formidable qui s'appelle Simone Weil, n'est-ce pas, que Sartre appelait la Vierge Rouge, qui dit tout se passe comme si finalement on se contentait de nourrir les hommes, on se résignait à nourrir les hommes pour qu'ils servent les machines. C'est-à-dire que l'ouvrier devient le prolongement de la machine. C'est la machine qui se sert de lui. Ce aboutit, comme vous le savez, au taylorisme.
Renversement.
C'est un renversement qui aboutit au taylorisme. Comme vous le savez, chaîne de production automatique de pièces métalliques, c'est Ford et compagnie.
C'est par Ford, effectivement, au début du XXe.
Oui, sauf que le taylorisme, aujourd'hui,
il a contaminé les services.
Il a contaminé l'ensemble des métiers. L'ensemble des métiers se voit en quelque sorte décomposé en modules de compétences, en séquences de comportements à accomplir qui sont prescrits par des machines abstraites, des machines algorithmiques, des machines qui vous indiquent ce que vous devez faire pour aller là où elles ont décidé que vous deviez aller. Et c'est cette perte substantielle d'humanité, cette perte substantielle de raison, vous parliez de raison, Manuela, cette perte-là qui est constitutive d'une mutilation de l'humanité aujourd'hui.
Donc la raison, Roland Gori, si je vous résume, il y a aussi dans la raison le ferment d'une liberté, mais est-ce qu'on serait aujourd'hui dans une raison résonante, oui, c'est-à-dire réduite, qui rétrécit le monde ?
Tout à fait. Elle est réduite à ce que j'appelle la rationalité pratico-formelle, c'est-à-dire à la raison des affaires et à la raison, c'est combien je vais investir, combien ça me rapporte, et à la raison, si vous voulez, du conformisme, c'est-à-dire est-ce que c'est bien conforme à la règle, c'est-à-dire je peux faire n'importe quelle saloperie pourvu que finalement elle ne me mette pas en position de transgression explicite d'une règle et d'une norme.
On revient effectivement à la norme, alors ça veut dire que raison égale calcul, égale chiffre, c'est ça aussi qui vous indigne, Roland Gori, tout mettre en chiffre, y compris le plus invisible, y compris ce qui relève du relationnel, de l'âme, tout est marchandise. C'est le vivant, au fait, qu'on résume aujourd'hui en chiffres, et ça, c'est effrayant.
C'est absolument effrayant. Et il y a la dernière conférence du poète et philosophe antillais Édouard Glissant, s'intitule, et c'est absolument formidable, « Rien n'est vrai, avec un grand V, tout est vivant ». Et aujourd'hui, le vrai, eh bien, il s'impose avec violence au nom justement de l'efficacité, de la vitesse et du progrès. Et le progrès est d'une certaine manière un mensonge. Le progrès est d'une certaine manière un mensonge à partir du moment où on attend du progrès technique qu'il puisse convoyer en même temps la sagesse et la raison. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, on ne doit pas critiquer la raison générale. Il faut voir qu'elle a différentes facettes et que la rationalité pratico-formelle n'est qu'une des facettes de la raison. Il y a d'autres formes de rationalité qu'il faut respecter, qu'il faut cultiver. Le mythe, le rêve, la fabulation, la fiction, le conte, la poésie sont aussi des manières de donner les objets dans le monde, sont aussi des manières de faire paraître le vivant dans le monde.
Et vous nous rappelez, Roland Gori, que nous sommes des êtres de récit et qu'on a besoin du récit. Mais tout ce constat qui est un constat amer, vous avez cité Camus, on peut citer la révolte de Camus, vous avez dit embarquer, mais ça vous révolte, ça.
Oui, ça me révolte, ça m'indigne. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je n'ai pas choisi de m'engager comme vous le proposiez.
D'être embarqué.
Mais que je me trouve embarqué. Je me trouve embarqué dans un monde qui ne me convient pas et dans lequel, je pense, l'émergence d'un certain nombre de violences, l'émergence de certaines formes de terrorisme accompagne des formes plus discrètes de terrorisme qui sont les terrorismes technocratiques et bureaucratiques qui conduisent les humains à se comporter comme des machines. On sait que pour le capitalisme, le travailleur idéal, c'est le robot. Mais transformer l'humain en robot est quand même une violence considérable qui conduit parfois à des comportements qui peuvent nous paraître absurdes. C'est les canuts à Lyon qui détruisent les machines. C'est les ouvriers au moment de la Commune à Paris qui tirent sur les horloges. C'est quand même intéressant, ça.
Parce que l'issue, forcément, à ce terrorisme-là de la norme, et le mot est fort, mais vous l'utilisez, hein, terrorisme, c'est forcément la violence, l'issue.
Alors, malheureusement, disons que c'est la réaction qui est quasiment de la même substance que celle de la contrainte, c'est-à-dire que à la violence technocratique, bureaucratique, à la violence technique, n'est-ce pas, à la barbarie technique, comme disait Walter Benjamin, eh bien, se produit, émerge une violence, bien souvent d'action, qui d'ailleurs n'aboutit pas à plus de liberté la plupart du temps. Voyez, mais je pense qu'il faut l'entendre, il faut l'analyser, il faut l'accueillir et il faut pouvoir essayer de la transformer en autre chose. Et je crois que le travail de la culture, le travail de la fiction, le travail de la fabulation, le travail du dialogue, le travail de la parole, le travail du récit, le travail de l'échange, c'est essayer de transformer en quelque sorte la violence inhérente à la condition humaine en possibilité de transcender cette violence par des formes culturelles qui nous restituent notre humanité. Donc vous voyez, l'acte de création comme forme finalement d'émancipation des colonisations que nous subissons, que ce soit des colonisations de territoire ou des colonisations de mœurs et d'esprit, c'est cela qui peut permettre de transformer justement notre rapport au monde.
Mais être créatif, ça ne se commande pas, ça ne se décrète pas. Quelles sont les conditions pour que chacun, chacune soit créateur de sa vie ?
Alors, c'est un point qui est extrêmement important. Cela suppose des conditions sociales, culturelles et politiques qui favorisent un environnement prédisposant.
Le chemin est long, hein ?
Le chemin est très long. Ça passe d'abord par une autre manière d'éduquer. Ça passe par d'autres écoles que les écoles de compétences, les écoles performance. Donc tout ça doit complètement être pulvérisé, changé. Il faut revenir à certaines valeurs. Donc il faut changer ça. Il faut changer notre manière de transmettre les savoirs. Et les savoirs qui ne sont pas que des compétences. C'est aussi un savoir-être, un savoir-penser, un savoir-analyser le monde, un savoir-aimer, un savoir-jouer. Tout ça doit avoir sa place dans l'école. On doit revenir à Montessori, on doit revenir à Freinet, on doit revenir à ces grands pédagogues qui ont reconnu chez l'enfant, non pas un adulte en miniature, mais justement le potentiel de l'adulte, le potentiel du vivant. Walter Benjamin avait une formule extraordinaire, que je cite toujours, qui dit que peut un adulte marcher, que ne peut-il plus apprendre à marcher. Et donc il nous faut justement cultiver cette puissance du possible, cette puissance du potentiel. Donc je crois que c'est un point important, il y a l'école, il y a la famille bien sûr, et puis il y a les relations sociales. Il nous faut du temps pour penser, il nous faut du temps pour nous parler, déjà dans nos milieux professionnels. Il ne s'agit pas de transmettre simplement les consignes ou de transmettre simplement les événements indésirables ou désirables de notre travail. Il faut aussi qu'on puisse se voir, se parler, se toucher.
Il faut aussi du temps pour ressentir. On pourrait aussi dire, Roland Gori, que l'enfant qui veut attraper la lune pour jouer avec cette lune comme il jouerait avec une balle, c'est inutile. Alors que notre société valorise tout ce qui est utile, il faudrait retrouver le sens profond de ce qui est inutile mais essentiel.
Tout à fait. Baudelaire disait qu'un homme utile n'y a rien de plus ennuyeux. Il y a l'utile et l'essentiel. Je crois que le jeu, le rêve, le conte, le récit, la danse, le chant, toute cette culture fait partie de l'essentiel, fait partie, si vous voulez, de l'humanisation de l'homme. Et c'est un point essentiel. Et le réduire à l'utile, c'est le réduire à un instrument, le réduire à l'utile, le réduire aux machines. Et c'est cela qu'il nous faut revisiter. Alors ça ne veut pas dire pour autant que nous ne devons pas avoir des pratiques utilitaires. Bien sûr, elles sont nécessaires. On peut se les partager d'ailleurs. On parlait de féminisme. Le travail fantôme des femmes dans les foyers. Illich a beaucoup insisté là-dessus. C'est intéressant. Il a beaucoup montré qu'un certain nombre de nos activités était du salariat caché et bénévole. Et ça s'est prodigieusement accru aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, vous allez au supermarché, vous avez des caisses automatiques, etc. Vous allez travailler pour les actionnaires qui financent le supermarché. C'est ça que ça veut dire. Vous allez prendre un billet de train, un billet d'avion, c'est pareil, vous allez vous enregistrer. Ça, c'est du travail. Et là, il y a un point qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes volés par les actionnaires en quelque sorte, qui tire profit du travail bénévole que nous accomplissons au nom de l'efficacité, de la rapidité et de la norme.
Et parfois qui nous arrange cette rapidité, cette efficacité. Je crois qu'on n'aura plus les mêmes gestes au quotidien après vous avoir écouté. Prendre un peu de recul sur les automatismes qu'on a et que permettent parfois les nouvelles technologies. Vous plaidez, Roland Gori, pour une poétique du vivant. Nous sommes des vivants parmi les vivants. C'est à redécouvrir. Vous parliez de valeurs. On arrive au terme de ce podcast. Quelles sont les vôtres de valeurs les plus importantes? Et celles que vous portez à travers vos livres, vos conférences, à travers aussi ce que vous faites avec vos passions?
Je crois que c'est la liberté de penser qui implique la liberté de rêver et la liberté de rêver en présence de l'autre. L'autre est dans mon rêve et c'est à l'autre dont je parle de mon rêve pour pouvoir essayer d'entendre quelque chose de moi-même. Mes valeurs, elles sont du côté de l'humanisme. Vous l'avez compris. C'est pour ça que c'est le jeune Marx qui m'intéresse. C'est pour ça que c'est Benjamin ou Camus qui m'intéressent. Et ces valeurs, elles impliquent quelque part la fraternité. C'est-à-dire que ces valeurs, elles impliquent, si vous voulez, une véritable liberté partagée avec l'autre, parce que c'est ce partage sensible qui constitue l'invention de la démocratie.
Retrouvons le chemin des rêves pour mieux partager, pour mieux les partager, inventer un monde meilleur, c'est ça aussi le chemin.
Un monde
plus fraternel en tout cas, mais meilleur.
Oui, un monde humain. Un monde humain.
Tout simplement. Merci infiniment, Roland Gori.
Merci à vous, Manuela.
Le 30 octobre 2023, Roland Gori a donné une conférence au Club 44 dans le cadre de Big Bounce, intitulée La fabrique de nos servitudes dans nos sociétés de contrôle, comment s'en émanciper? Vous pouvez réécouter cette conférence en libre accès sur notre site internet club-44.ch, rubrique médiathèque.